père majeur du Forex. Tour d'horizon technique et global macro, dollar américain, yen japonais, livre sterling, franc suisse, dollar australien, dollar canadien et euro, c'est parti. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. C'est naturellement la fin de l'été, la fin du troisième trimestre boursier. Quel troisième trimestre boursier étonnant sur le marché d'échanges flottant de son petit nom, le Forex. Le dollar américain a été la devise leader sur le marché d'échange cet été, envers et contre toutes les attentes, du fait que, au début de l'été, moi j'ai repris les anticipations de politique monétaire. Les analystes étaient fous, ils envisageaient un pivot de la Fed à la rentrée, mais rappelez-vous d'ailleurs, je vous l'expliquais régulièrement, que la Fed nous le disait, les yeux dans les yeux, dans le blanc des yeux. Arrêtez de rêver. Et la Fed a tenu la barre, a tenu son cap. Et logiquement, eu égard au fait, à la différence de toutes les banques centrales majeures, on va parler de toutes les monnaies. Je vais vous dire ce qui se passe sur le franc suisse, mais le franc suisse, vous vous en souvenez, j'avais fait une émission spéciale en août en expliquant qu'il était possible que la BNS crie victoire et adopte le statu quo. C'est ce qu'elle a fait. Le franc a fait son point haut. Le rebond de l'euro CHF, de l'USD CHF, du GBP CHF, du CAD CHF. Bon. Le yen, le dollar australien, le dollar canadien, l'euro, toutes les banques centrales, hormis la Fed, ont laissé entendre, laissé supputer, supposé entendre qu'elles auraient peut-être atteint leur taux terminal. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? L'Allemagne est en récession économique. La zone euro est en pré-récession technique. Le Royaume-Uni est en pré-récession technique. Le Canada est en pré-récession technique. L'économie américaine, elle, continue de croître à, on dit, un rythme modéré. C'est vrai que les récentes statistiques américaines n'en montrent toujours pas, ne le souhaitons pas, mais on se dit que ça va arriver quand même, de dégradation du marché du travail, même si des pré-agrégats de l'emploi le suggèrent. Mais bon, ça je le traite dans le Top Gun. Au final, la Fed est plus ou moins la seule des banques centrales majeures. Ah, alors déjà, la Banque Nationale, elle crie victoire. Alors, c'est la semaine dernière, la Banque Nationale, rappelez-vous, la Banque Nationale Suisse, bien sûr, pour les francophones hors de Suisse, la Banque Nationale Suisse, tout le monde attendait qu'elle relève son taux à 2%. Elle a mis le statu quo et elle nous dit qu'en l'état, bah, c'est fini. Elle nous dit que sa politique monétaire a été bien transmise à l'économie, qu'elle a réussi à brider l'inflation. Bon, la Fed, ce n'est pas tout à fait le cas. La Fed, non seulement, elle nous dit que potentiellement, sa cible d'inflation, je vous rappelle, ramener l'inflation sous-jacente sous 2%, ne sera pas atteint avant 2025, voire 2026. Bon, ça change tout le temps. Hein. Vous savez, dans un mois, ce sera peut-être différent. Hein. Mais là, je vous dis l'état actuel. Et ce qui explique que le dollar a fait 3 mois de rebond. Alors d'ailleurs, le dollar a rejoint des seuils techniques de short squeeze. Va-t-il échouer ? Va-t-il reverser au contact de cette frontière technique dont nous avons 1000 fois parlé, les 106 points du DXY ? Ou pas ? Cette semaine qui voit la mise à jour encore de l'inflation aux États-Unis selon l'indice des prix PCE, qui est le plus suivi par la Fed. Écoutez, on va faire plein de choses. Là, on ne fait pas que le dollar. J'ai voulu traiter, voilà, tout est là. Je vous ai fait une synthèse, d'ailleurs on va commencer par la synthèse. Je vais vous faire une synthèse monétaire et globale macro, donc pour le dollar bien sûr, pour le Japon et son yen, pour le Royaume-Uni et sa livre sterling, pour cette bonne vieille Suisse et son CHF, pour, et puis on va voyager un peu, c'est quoi, 15-18 heures de vol, on va aller en Australie, et on va parler de l'AUD. Le dollar australien, attention, très corrélé positivement au yuan renminbi. Le dollar canadien, attention au prix du pétrole. Je vais vous rappeler toutes ces corrélations, mais je vous fais aussi un topo sur les toutes dernières décisions de toutes ces banques centrales. Mais en fait, on se fait un tour d'horizon des banques centrales, puisque souvent, j'ai publié ce que je lis, tous les commentaires que vous me laissez. D'ailleurs, je vous en remercie. Et je vous remercie aussi surtout pour les likes. Vous savez, les youtubeurs, ils demandent souvent des likes. Alors, est-ce que je suis un youtubeur ou pas ? Je ne sais pas, c'est un autre sujet. Mais les youtubeurs demandent souvent des likes. Mais vous savez qu'en fait, c'est vraiment, pour nous, créateurs de contenu analytique, c'est vraiment la clé. pour pouvoir faire en sorte que ce contenu se développe, se propage et soit apprécié. C'est très important. Donc, et puis bien sûr l'euro. Ah, satané euro. 1,12, 1,06, boum, d'une traite. 1,0515, c'est le bord du gouffre technique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La garde, elle a dit que 4,50 était potentiel. Vous savez, la Banque Centrale Européenne, c'est la fédération des banques centrales nationales. Lorsqu'on écoute, même encore récemment, le gouverneur de la Banque de France, ils disent tous 4,50, c'est le taux terminal. Quasiment, presque, pas exactement comme ça. La Fed, elle n'a pas dit que 5,50 était son taux terminal. Peut-être, mais dans ces cas-là, si c'est 5,50, ça va le rester pendant un an. Mais il y a encore, allez, 4 chances sur 10 que ce soit 5,75. Après, il suffit de comparer la croissance économique au sein de la zone euro à celle des États-Unis pour comprendre la raison de tout ça. Mais ça peut aller très vite. Vous savez, beaucoup me demandent qu'est-ce qui peut inverser la vapeur sur le dollar. Bien sûr, peu importe, chacun son positionnement. Mais quelle est la seule chose qui pourrait faire que le dollar arrête de remonter? Peu importe, là, on n'est pas en train de dire qui veut quoi. Simplement, quel est le seul facteur fondamental qui pourrait stopper net le rebond du dollar, qui a commencé, je vous le rappelle, mi-juillet? Il y a un seul facteur, un seul. Une stat américaine immonde, qui serait soit dans le secteur des services ou du côté du marché du travail. Et là, il reverse. En l'état, pour le moment, il n'y a ni l'un ni l'autre. Même si récemment, le PMI des services, selon Markit aux États-Unis, s'est approché de 50, il est encore au-dessus. Du côté de l'emploi, il y a toujours peu de nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Et alors, on verra le prochain rapport NFP. Là, ce sera, c'est la semaine prochaine, ça va être tout le monde attend ce prochain rapport NFP. Donc voilà, écoutez, on attaque le tour d'horizon des paires majeures. Alors, chers amis, c'est parti. Tour d'horizon technique et monétaire des paires majeures du Forex. Alors, j'ai comme d'habitude pris le temps de tout mettre à l'écrit et puis j'ai même organisé ça dans un tableau. D'ailleurs, on va commencer par la synthèse qu'on va prendre le temps de lire ensemble. On va prendre le temps de la lire ensemble. Le plan, je viens de vous le donner, donc voilà, je ne vais pas le faire apparaître trop longtemps. Et on commence par une synthèse globale macro, regardez-moi ce beau laser, des paires majeures du Forex avec donc ce tableau. Alors, le tableau, on va le lire. Oui, on va le lire en entier. Oui, je vous confirme. Nous allons le lire en entier. C'est pas très long. Parce que je veux qu'on commence par prendre le temps d'avoir tous en tête les dernières décisions de politique monétaire des banques centrales majeures. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre chacune de ces monnaies, de ces banques centrales, et on entre dans les détails et dans les illustrations. Vous souhaitez aller directement à la partie d'une monnaie qui vous intéresse? Vous avez la barre de temps, vous pouvez aller dans la description et vous avez la timeline, le titre, et vous cliquez sur le minutage et ça vous emmène direct là où vous voulez que cela vous emmène. Alors, dollar américain, forcément, lorsque je dis que le dollar est leader, là je vous ai remis la performance des monnaies majeures du Forex depuis le début de l'été. Alors me direz-vous, qu'est-ce que c'est que ça là? Là, vous avez les codes des monnaies. DXY, c'est le dollar. SXY, c'est ce bon vieux franc. CXY, c'est le dollar canadien. EXY, c'est l'euro. ZXY, c'est le dollar néo-zélandais. Ah, j'ai oublié de faire le dollar néo-zélandais. Bon, ben, je le ferai la prochaine fois. Dollar australien, c'est AXY. Le yen, c'est GXY. Et la livre sterling pour British, c'est BXY. Donc, oui, depuis le début de l'été, le dollar est patron. Mais regardez, il était avant. Ça, il est passé de la dernière place à la première en 3 mois. Il a douché tout le monde. Ah, essayez de comprendre pourquoi. Donc, alors, le dollar américain. Donc, l'inflation nominale est à 3,7%, toujours nettement au-dessus de la cible de la Fed. Le taux d'intérêt de la Fed est à 5,50. Le rendement obligataire à 2 ans est à 5,10. Bon, alors on se dit qu'effectivement, tant que le rendement obligataire à 2 ans est à 5,10, effectivement, que le taux terminal est plus probablement 5,50. Alors que l'inflation nominale est en léger rebond du fait du rebond du prix du pétrole et que l'économie américaine reste en croissance modérée, l'inflation sous-jacente continue de reculer. En revanche, elle est nettement au-dessus des objectifs de la Fed en matière de stabilité des prix. Le marché spécule sur le fait que le taux de 5,50 soit éventuellement le taux terminal de la Fed. 5,75 reste possible dans tous les cas, et c'est ça qui a soutenu le dollar. La durée avant le pivot sera de plusieurs mois et peut-être même seulement en 2025. La Fed a donc affiché son intransigeance à la différence des autres banques centrales. Vous allez voir, les autres, elles ont eu un discours plus, elles ont tenu compte du fait que leur économie était en pré-récession, voire bon, bah, en Europe, l'Allemagne, elle, est en récession. Vous prenez les deux derniers trimestres de croissance du PIB allemand par trimestre, mais en rythme annuel, c'est négatif. Hein, donc, c'est de la récession. Technique, on verra sur l'année complète. Excusez-moi. Le yen japonais. Alors, le yen japonais, lui, ça a été tout le contraire. Il continue de chuter. Faut-il d'ailleurs acheter le yen, shorter l'USD yen? Alors, la Banque centrale du Japon, elle a surpris tout le monde. L'inflation nominale se situe à 3,2%. C'est légèrement au-dessus du taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon, mais pourtant, le taux d'intérêt de la BOJ est à moins 0,10. C'est le seul taux négatif au sein des banques centrales majeures. Et le taux obligataire à 2 ans est à 0. Bien que le marché spécule sur une normalisation de la politique monétaire de la BOJ, Bank of Japan, ne semble pas prête d'arrêter sa politique monétaire ultra-accommodante, car l'économie est en net ralentissement. Par conséquent, le yen japonais est en chute libre sur le Forex, mais attention, certaines interventions de la BOJ peuvent freiner cette baisse. La Banque d'Angleterre a adopté, contre toute attente, le statu quo monétaire en laissant son taux directeur stable à 5,25, au plus haut depuis l'année 2008 cependant. Le marché anticipait une dernière hausse à 5,50. Il serait donc possible que la Banque d'Angleterre ait atteint son taux terminal, ce qui a mis la pression sur le GBP. En revanche, attention, la politique monétaire de la Banque d'Angleterre reste restrictive, l'inflation étant encore largement au-dessus de la cible, donc prudence. La Banque nationale suisse, c'est la seule qui crie victoire. La Banque nationale est la première des banques centrales majeures à crier victoire dans sa lutte contre l'inflation, ramenée à 1,6% en rythme annuel. La BNS a d'ailleurs maintenu contre toute attente son taux directeur à 1,75, alors que le marché avait anticipé une hausse à 2%, et a jugé que le resserrement monétaire des derniers mois était adapté. Voilà, c'est jeter des fleurs à contrer d'éventuelles nouvelles pressions inflationnistes. Conséquence immédiate de ce nouveau positionnement monétaire, le franc suisse s'est retourné à la baisse sur le FX. Rebond de l'euro CHF, rebond de l'USD CHF. D'ailleurs, les supports techniques ont tenu. Le dollar australien. Alors, l'économie australienne reste en croissance modérée grâce à la résilience du secteur des services, à l'image de l'économie américaine. En revanche, la Banque de réserve d'Australie, la RBA, a adopté le statu quo monétaire sans confirmation qu'il s'agisse du taux terminal. Alors, attention à une chose. Le dollar australien est très lié via une corrélation positive au yuan renminbi chinois. J'en parlerai. Pour la Banque du Canada, eh bien, la Banque du Canada est actuellement en pause monétaire avec un taux overnight à 5%. L'économie canadienne est en état de pré-récession technique avec une croissance trimestrielle égale à 0 alors que l'inflation nominale est en rebond à 4%. La Banque du Canada, BOC, semble vouloir privilégier des taux élevés sur longue période à de nouvelles hausses de taux. Alors, il y a aussi un lien entre le dollar canadien et le rebond du prix du pétrole. Et enfin, l'euro, l'économie de la zone euro est en stagflation, l'économie allemande est même en récession technique, l'inflation sous-jacente au sein de la zone euro est largement au-dessus de la cible de la BCE, avec une lecture à 5,3, mais voilà, il est vrai que le taux de refinancement de la BCE vient d'atteindre 4,5%, au plus haut depuis 22 ans, et donc la Banque Centrale Européenne de Madame Lagarde a laissé entendre qu'il pourrait s'agir du taux terminal. C'est ça aussi qui a accéléré la baisse de l'euro. Alors maintenant, voilà, on va faire le point maintenant plus en détail sur tous ces éléments. Voilà, est-ce que le dollar est proche de la fin de son rebond? Alors, dollar américain, dollar US. Le dollar US est effectivement proche du seuil technique de short squeeze, sur fond donc d'une intransigeance de la réserve fédérale des États-Unis. C'est vrai que ça a surpris tout le monde, mais en fait, ça a surpris ceux qui voulaient bien se laisser surprendre. C'est-à-dire que je vous ai remis ici le cycle des taux d'intérêt de la Fed. Bon, voilà, très bien, hein, la politique de resserrement monétaire qui a commencé en 2022. Jamais la Fed n'a laissé entrevoir que son taux terminal était atteint. Moi, je me souviens encore qu'en juin dernier, Je regardais l'outil CME Fed Watch Tool, les anticipations vis-à-vis de la Fed, c'était qu'un pivot aurait lieu à l'automne. Bon, bah, c'est... Et en plus, les membres de la Fed disaient, bah, arrêtez, quoi, arrêtez d'imaginer ce scénario-là. Alors, il y a quand même, qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment ou un autre, le dollar cesse son rebond ? Soit un mauvais chiffre dans le secteur du travail, pas le secteur du travail, sur le marché du travail, soit un mauvais chiffre dans le secteur des services cette fois-ci. Alors justement, il faut être assez prudent. Je vous remontre ici la mise à jour la semaine dernière du PMI, donc composite aux États-Unis selon Markit. Il est au niveau des 50, hein, juste au-dessus. S'il devait basculer sous 50, ce serait vraiment un signal de pré-récession. Et la lecture des services est à 50,3. Donc là aussi, il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, cette semaine, pour les États-Unis, vous avez la mise à jour de l'indice des prix PCE. Et en fait, si vous voulez, c'est ça tout le débat. Le débat est de savoir, vous avez donc actuellement un rebond de l'inflation nominale aux États-Unis. Alors ce vendredi, vous allez avoir la mise à jour du PCE. Actuellement à 3,3, il devrait remonter à 3,50. Je suis ici sur l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland. Mais regardez l'inflation sous-jacente. Elle, qui est à 4,2, devrait baisser à 3,95 puis 3,80. Certes, encore largement au-dessus de la cible de la Fed. Car il est vrai que pour le moment, le rebond de l'inflation nominale est uniquement lié au rebond du prix du pétrole, qui maintenant a une contribution largement positive. Alors que l'inflation alimentaire est proche de basculer en territoire négatif, que l'inflation immobilière a repris sa tendance baissière, et que vous avez de nombreuses composantes de l'inflation qui sont maintenant s'enfoncent en territoire négatif. Donc en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Si vous voulez, tout ce rebond du dollar américain, basé sur le rebond de l'inflation nominale, basé sur le rebond du prix du pétrole, basé sur le rebond des taux du marché, eux-mêmes basés sur les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Fed, ça repose sur du vent. Du vent. Enfin non. Le rebond du prix du pétrole n'est pas du vent. Il suffit d'aller faire le plein d'essence pour s'en rendre compte. Le rebond du prix du pétrole est artificiel. C'est ça que je voulais dire. Uniquement, mais ça j'ai traité le sujet dans un autre Fast and Forex, parce que l'Arabie Saoudite et sa copine la Russie ont fermé le robinet. Sauf que ces deux pays ont tout donné. Je vois mal l'Arabie Saoudite aller jusqu'à 5 ou 6 millions de barils le jour. Donc, ceci aura une fin. À un moment ou à un autre, ça aura une fin. Alors que les perspectives de consommation en Occident sont decreasing. Voilà, c'est ça. Alors, après, voilà, la question se pose, y a-t-il un risque de voir l'inflation nominale venir relancer l'inflation sous-jacente, celle qui exclut les éléments les volatiles? Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, mais il ne faudrait pas que le pétrole dépasse le seuil des 93,50. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises. Il est très important que le pétrole échoue sous ce seuil. Pour le moment, alors, ce qu'on constate, c'est que le seuil technique que nous avons identifié ensemble était le bon, les 93,50, qui sont vraiment un cluster technique. Tant qu'on, voilà, pour l'instant, on est en dessous. Donc, il faut absolument éviter ce scénario-là. Car un scénario de ce type-là, sur le pétrole, serait vraiment archi-bullish pour le dollar américain. À un moment où le dollar américain est revenu au contact de ce que moi j'appelle un seuil technique de short squeeze, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. Ici, vous aviez le point de départ de la hausse du dollar à l'été 2021, un super golden cross. Là, il y a eu un death cross. Là, on se refait un golden cross. On arrive au contact de ce seuil de short squeeze sur le dollar US, du fait de la baisse de toutes les monnaies par rapport à lui, hein, depuis 3 mois, du fait de toutes ces décisions de politique de monétaire de banque centrale qui sont venues se faire à l'opposé de celle de la Fed. Et donc voilà, c'est vraiment tout l'enjeu de cette semaine sur le Forex. Le dollar va-t-il être capable de franchir cette zone ou pas? Il y a au moins la place pour faire un retracement. Moi, je ne serais pas surpris. Déjà, le fait que regardez, l'euro-dollar. Alors, attention, je ne sais pas si on est vraiment dans cette structure de vague 2 avant une 3. Ça, c'est une hypothèse, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive au contact d'un énorme support. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, d'un point de vue des indicateurs de momentum, c'est un support qui peut sembler menacé. J'en parlerai tout à l'heure pour le cours de l'euro-dollar. Voilà. Regardez comme en hebdo, le dollar US semble entrer dans le nuage assez facilement. Bon, on est vraiment, c'est voilà, c'est la fameuse zone des 106 points. Ça se joue vraiment maintenant. Donc, pour le dollar, cette semaine, les chiffres de l'inflation qui vont être publiés ce vendredi seront majeurs. Et bien sûr, tous les indicateurs d'activité de l'économie américaine. Alors, on va continuer le tour d'horizon. Le dollar US, alors, est en train de reprendre sa première place sur le marché d'échange. Ce que je voulais aussi vous rappeler ici, c'est que si le dollar US est remonté si haut, c'est en grande partie parce que toutes les monnaies face à lui ont chuté du fait des décisions de politique monétaire que je vous ai décrites en introduction. Et il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, ce sont les spreads de taux d'intérêt. Vous savez, la tendance d'une monnaie sur le marché d'échange, c'est avant tout la tendance de l'écart relatif entre les taux d'intérêt d'un pays par rapport à un autre, chacun ayant sa propre monnaie. Bon, le dollar US restera haussier tant que vous aurez des spreads de taux en hausse. Les spreads de taux, je les ai représentés ici en faisant la soustraction entre le taux obligataire américain à 2 ans, moins celui du Japon, moins celui de la Suisse, moins celui de l'Allemagne, moins celui de l'Australie, moins celui du dollar canadien, etc. L'Allemagne pour la zone euro. Eh bien, pour le moment, au stade actuel, tous ces spreads sont haussiers. Mais notez que face au Japon, on arrive sous résistance. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et ça montre effectivement que le marché joue ce différentiel en faveur de la Fed. Donc, alors, vous avez bien compris que la suite de la tendance du dollar, pour moi, eu égard au fait que tout le monde a compris le positionnement de la Fed, alors qu'il lui peut changer. Soit si on a un mauvais chiffre dans le secteur des services, soit un mauvais chiffre du côté du marché du travail américain, mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Dans ces cas-là, le dollar aura son inertie. Qu'est-ce qui pourrait stopper son inertie haussière? Dans ces cas-là, eu égard au poids relatif que je vous ai montré des autres monnaies dans le calcul de l'indice de devise DXY, il faudrait des datas qui concernent les autres monnaies, et notamment l'USD/JPY, hein, c'est 15% du DXY, l'euro-dollar c'est 50. Donc, à tout moment, la Banque centrale du Japon, elle a déjà surpris tout le monde. La Banque centrale du Japon, elle a maintenu son taux négatif, donc forcément, voilà, mais en même temps, parce qu'elle ne veut pas contraindre l'économie, et parce que l'inflation ne s'est jamais vraiment envolée comme en Occident, mais en même temps, la Banque du Japon, elle mesure le risque en termes de sortie de capitaux qui peut représenter la chute de sa devise. Et donc, elle est susceptible d'intervenir. D'ailleurs, récemment, la Banque du Japon et la Banque centrale de Chine sont interrompues pour freiner la chute de leur monnaie, c'est-à-dire freiner la hausse de l'USD/JPY pour la Banque du Japon et la hausse de l'USD/CNY pour la Banque populaire de Chine. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Prudent par rapport à ça. Le yen japonais, pour le moment, reste donc en chute libre. Il est vrai que la priorité de la Banque centrale du Japon, c'est de contrôler la courbe des taux. Mais la stabilité du yen peut être aussi un objectif. Alors, pourquoi le yen est en chute libre? Regardez ce que je vous ai remis ici. Je vous ai remis un comparatif des taux des banques centrales majeures. Regardez, vous avez le taux de la Fed, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada, de la BCE, de la Banque d'Australie, de la Banque centrale de Chine, de la Banque nationale suisse et la Banque centrale du Japon. Voilà, c'est la seule qui est négative. Alors, attention aussi à quelque chose. Sur le taux USD/JPY, il est très important de surveiller le niveau qui est actuellement en train d'être atteint, car ici, je vous rappelle qu'en octobre 2022, c'est la Banque du Japon qui est intervenue. Attention, regardez ici ce second graphique. Vous avez en orange le JPY Index, hein, donc le JXY. Il est revenu sur le précédent seuil d'intervention de la BOJ. Alors, oui, c'est vrai que la semaine dernière, la Banque centrale du Japon nous a dit que ce n'était pas sa priorité le change. Et si le yen devait passer là-dessous, attention aux dégâts. Là, il y a déjà des pressions énormes sur le marché obligataire japonais. Des risques de sortie de capitaux. Donc moi, je ne serais pas surpris que la Banque centrale du Japon essaye de stopper l'USD/JPY. Ici, au contact de cette résistance. Peut-être pousser jusqu'à 152, mais voilà. Donc soyez prudent là sur le niveau qu'a atteint le taux USD/JPY. La livre sterling, alors elle, eh bien, elle a cassé des supports. Elle tend vers un 20. Le taux terminal de la Banque d'Angleterre pourrait être atteint, mais attention, par les deux pivots, est largement prématuré eu égard au fait que l'inflation se situe toujours à 6% au rythme annuel. D'autre part, le resserrement quantitatif se poursuit alors que l'économie britannique est en pré-récession économique. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Banque d'Angleterre, que la BCE et d'autres ont laissé entendre que potentiellement leur taux terminal était atteint, c'est que ces économies sont en pré-récession économique. Alors que les États-Unis, semble-t-il, au regard des chiffres récemment publiés, en mettant de côté le secteur manufacturier, n'y seraient pas. Bon, mais ça, on sait que ça peut aller très vite et que c'est vraiment le débat des prochains mois et le débat de l'année 2024. Alors, sur le plan technique, le marché semble chuter en direction des D1,20. Vous savez, jusqu'à où baissera la livre sterling? Je vous ai mis ici un graphique assez intéressant. Je vous ai expliqué que la tendance des monnaies, c'est avant tout celle des spreads de taux. Regardez ce que vous avez sous les yeux. Vous avez en bleu le GBP/USD, donc voilà, ok, hein, qui est en train de tendre vers les 1,20. Et vous avez ici en bougie japonaise le spread de taux entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Vous voyez, USD 02Y moins GB 02Y. Et donc, vous voyez que la baisse du GBP/USD, c'est le rebond du spread de taux. C'est-à-dire que l'écart entre le taux américain à 2 ans et le taux britannique à 2 ans est de plus en plus en faveur de l'USD. Et maintenant, il a plus 0,30, alors qu'avant, il était négatif. Et donc, voilà, le GBP/USD se stabilisera lorsque ce spread, vous pouvez le construire sur TradingView, donnera un signal de fin de hausse. À un moment ou à un autre, je pense que le GBP peut rebondir. Regardez où se situe l'inflation britannique. Donc, attention. Et donc, le GBP/USD, c'est un couteau qui tombe. Ok, très bien, mais là, vous avez un énorme seuil, le niveau des 1,20. Je pense que, alors il faut déjà, on va arriver en zone de survente, c'est encore un peu tôt, mais je ne serais pas surpris que dans cette zone-là, autour des 1,20, le marché finisse par se stabiliser et que des premières divergences commencent à apparaître. Alors le franc suisse, là, c'est complètement différent. La Banque nationale a crié victoire. Le CHF, mais ça nous l'avions vu ensemble, et j'en suis satisfait pour une fois cet été, elle a crié victoire, elle dit qu'elle a vaincu l'inflation. Elle a maintenu son taux directeur à 1,75%, alors que le marché anticipait une hausse à 2%. Elle a jugé que le resserrement monétaire des derniers mois était adapté à contrer les dernières pressions inflationnistes. Conséquence immédiate de ce positionnement, le franc suisse s'est retourné à la baisse sur le marché d'échange. L'indice franc suisse SXY a confirmé les signaux baissiers donnés au mois de juillet dernier. Je vous ai remis donc ici les signaux techniques baissiers qui avaient été donnés, ce qu'on avait vu ensemble, sur le CHF Index ou SXY sur TradingView. Et là, il y a de la place pour baisser encore davantage. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour que Euro-CHF, GBP-CHF aille un peu plus haut. Et là, vous avez donc les prévisions d'inflation de la Banque nationale. En rouge, les toutes récentes. En orange ou jaune, celle de juin. Et vous voyez qu'elle est très confiante maintenant pour qu'en maintenant son taux à 1,75, eh bien l'inflation durablement reste sous le seuil des 2%. Et donc, c'est ça qui a permis au support de tenir. Je voulais vous mettre en évidence le fait que Euro-CHF... Alors, on va pas parler de double bottom. Hein, l'euro est sous pression. Double bottom, il faudrait déjà remonter à 1 et casser 1. Mais voilà, on me dit que on est dans cette logique de reprise. Et que voilà, je ne serais pas surpris qu'on essaye d'aller revenir sur les 0,97, 0,98. Ici, aller chercher par exemple la moyenne mobile à 200 jours, peut-être avec un petit retracement d'abord. Mais voilà, on est dans cette phase-là. Regardez aussi le GBP/CHF. Le GBP/CHF, c'est un très beau range. Voilà, et je me dis qu'aussi ça pourrait vouloir tenir le bas du range. Donc en tout cas, je pense que oui, le franc suisse a fait son point haut. Et que désormais... La Banque nationale est même plutôt satisfaite de le voir un peu se déprécier. À l'époque, hein, rappelez-vous, elle intervenait directement pour stopper la force du franc. Là, elle ne l'a pas fait, mais elle a adopté une communication pour avoir le même résultat. Le dollar australien, alors statu quo provisoire, car la cible d'inflation est encore très éloignée. Alors pourquoi le dollar australien ne rebondit pas ? Alors déjà parce que le dollar US est fort, mais surtout, et ne sous-estimez pas ça, il y a une corrélation positive très importante entre le dollar australien et le yuan renminbi chinois. Or, le yuan chinois est largement mis sous pression par la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque centrale de Chine. Alors, Vous avez ici un graphique en orange, vous avez la tendance de l'USDC à NY, et là, l'AUD-USD. Bien regardez, le point de départ de la baisse de l'AUD-USD, c'était le point de départ de la hausse de l'USD-CNY. Lorsque l'USD-CNY monte, c'est le CNY qui chute, le Yuan Renminbi. Donc, avant d'acheter l'AUD-USD, il faut que vous ayez un signal de renversement à la baisse de l'USD-CNY. Alors, avons-nous actuellement un signal de renversement à la baisse de l'USD-CNY? Ce que je sais, c'est que nous sommes sous résistance. Donc, c'est vrai qu'on se dit. Et qu'en plus, ici, la Banque Centrale de Chine intervient. Donc, voilà, effectivement, si on devait casser ce support, si on devait casser ce support des 7,25 sur l'USD-CNY, alors, dans ces cas-là, oui, l'AUD-USD pourrait, eh bien, entrer en rebond. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je comprends qu'on veuille surveiller cette zone. Hein. C'est une belle zone de retracement, le support des 0,6380. Mais il faut attendre soit de casser une résistance, mais surtout, je pense qu'avant d'acheter, tant que le CNY est sous pression, il ne faut pas acheter l'AUD. Il peut revenir là. Mais il va peut-être tenir ça et dépasser cette résistance et rebondir à 0,68, si et seulement si il y a une intervention vigoureuse de la Banque Centrale de Chine pour faire retomber l'USD CNY. Ça, c'est vraiment... Et puisque je suis sur ce sujet des corrélations, en ce qui concerne le dollar canadien, eh bien, la corrélation... Alors, bien sûr, oui, il y a peu de différence entre la politique monétaire de la Banque Centrale du Canada et celle de la Fed. Par contre, il y a une connexion importante entre le dollar canadien et le prix du pétrole. Et effectivement, alors, a priori, la Banque du Canada a atteint son taux terminal avec un taux overnight à 5, okay, qui est maintenant stable. Très bien. Maintenant, si je retourne sur la tendance du dollar canadien sur le marché d'échange, c'est un canal. Alors déjà, en hebdo, on a cette ligne de tendance, on est complètement neutre, on est dans le nuage, ok, très bien. Maintenant, on a cette espèce de canal à faible pente. Là, c'est vrai qu'on a tenu... Alors, récemment, le dollar canadien, l'USD CAD a baissé. Si l'USD CAD a baissé, c'est parce que le CAD a été soutenu par le prix du pétrole. Mais voilà, si le prix du pétrole devait échouer sous 93,50, ça pourrait mettre la pression sur le CAD et relancer l'USD CAD. Donc là, on est complètement neutre en données hebdomadaires. On est dans un canal à faible pente, on est en plein milieu. Qu'est-ce qui va trancher entre aller rechercher le haut du canal, végéter ici ou retourner dans le bas du canal? Numéro 1, la tendance du DXY. Clairement, la tendance du DXY, ce sera soutenu, surtout décidé par l'euro-dollar, le GBP, USD et l'USD Yen. Et puis aussi le prix du pétrole. C'est-à-dire que si vraiment le pétrole là devait retracer et ne pas dépasser... Par contre, si le pétrole dépasse 93 et va à 100$, ce truc va baisser. Si le pétrole va à 100$, le CAD va être soutenu et l'USD CAD va baisser et venir dans le bas de son canal. Donc c'est ça, tenez compte de tout ça pour l'USD CAD. Le lien du CAD avec le pétrole et le lien de USD CAD avec la tendance du DXY. Le DXY étant lui-même drivé par actuellement euro-dollar, GBP, USD, USD. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je crée des tableaux pour tout vous faire la synthèse de tout. Sinon, on ne comprend plus rien. Bon, voilà. Et donc l'euro, a priori, si l'on en croit les banquiers centraux, le taux terminal de la BCE serait atteint à 4,50 sur fond de pré-récession économique. Encore récemment, le gouverneur de la Banque de France a laissé entendre que le taux terminal pourrait être atteint. C'est vrai que l'euro-dollar a subi beaucoup de pression. Il est proche du gouffre technique à 1,0516. Les asset managers sont de plus en plus vendeurs. Je vous avais montré sur le rapport Commitment of Traders cette structure en épaule tête épaule. Ici, je vous remonte l'état, la croissance trimestrielle de l'Allemagne en rythme annuel avec ses deux trimestres consécutifs ici de croissance négative. Et donc le cours de l'euro-dollar, là qui est vraiment, alors ça c'est une hypothèse, mais le cours de l'euro-dollar qui revient sur, voilà, c'est ce seuil-là. Hein, C'est les 1,0515, ce seuil-là, c'est le bord du gouffre technique. Moi, je ne serais pas surpris quand même qu'on ait dans un premier temps des rachats de short sur ce seuil. Le marché est assez contrariant. Là, tout le monde est en train de jouer la poussée du dollar US. Comme le GBP USD, voilà, comme le GBP USD, pas encore tout de suite. Lui, on voit qu'il y a encore de la marge un peu. Mais voilà, je ne serais pas surpris que sur le cours de l'euro-dollar. Dans un premier temps, on arrive à rebondir sur un 0,515 et ensuite, la suite dépendra des fondamentaux. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève ce tour d'horizon des banques centrales. Alors, forcément, j'ai tout traité, donc c'est à chaque fois c'était de manière succincte, mais j'espère quand même que je vous ai redonné quelques bases d'évolution récente du positionnement des banques centrales. Et bien sûr, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette vidéo. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Salut, merci.